Chapitre 41. Anna Heusch. Compose ton être. Au centre aéré, Mona passait beaucoup de ses journées seule. Prise dans la ouate de ses rêveries et sans être de mauvaise compagnie, elle paraissait souvent un peu détachée. Un midi, au sortir du déjeuner, elle s'assit au frais contre le tronc d'un marronnier. Elle ouvrit son grand cahier rouge et y relut ses notes sur l'autoportrait de Rembrandt avec son exhortation à se connaître soi-même. Cela la fit sangloter. Elle pensait à sa grand-mère encore et encore, et parce que les passions de la jeunesse sont d'une cruauté qui n'a rien à envier à celle de l'âge adulte, un groupe de trois adolescentes, campées sur un banc à 5 ou 6 mètres de distance, en profitèrent pour se déchaîner à son encontre, vomissant injures et moqueries devant cette petite fille en larmes. Jusqu'alors, Mona ne leur avait jamais prêté attention. Elle tâcha d'abord de les ignorer, parce qu'elle en avait peur, sans doute, mais aussi parce qu'elle baignait dans ses souvenirs et enregistrait dans sa mémoire ce qu'il y avait de plus beau au monde. Cependant, au bout de quelques minutes, l'humiliation commença à l'agacer franchement, et surtout, ses larmes avaient séché. Alors elle leva la tête et dévisagea le trio. « Baisse les yeux !» asséna surprise la plus imposante du groupe. Mona ne les baissa pas. « Baisse !» répéta l'adolescente, défigurée par l'agressivité. Mona ne s'exécuta pas davantage. Elle rendit sa prédatrice folle de haine, si folle qu'elle crachotait maintenant son ordre en boucle. Sans effet. La rage de son assaillante vira à la crise de nerfs, et par une inconcevable ironie, elle explosa en larmes d'exaspération. Ses comparses se mirent à railler leur chef vaincu. Arroseuse arrosée, c'était elle maintenant la bouffonne. Mona haussa les épaules. « Allez, c'est bon, ça va comme ça, on oublie », lança-t-elle avec sa désarmante gentillesse. Et on oublia. Avant d'aller découvrir une nouvelle œuvre à Beaubourg, Henri voulut s'assurer que Mona répétait bien ses leçons à son chien, comme elle l'avait promis. L'enfant jura que c'était bien le cas et demanda à ce titre une faveur. « Daddy, si moi j'aime tellement voir des œuvres qui montrent des bêtes dans les musées, je pense que ça veut dire que les bêtes, si elles avaient le droit de visiter Beaubourg, elles aimeraient voir des humains. Et comme moi j'aime voir des drôles de bêtes, je pense même qu'elles aimeraient voir des drôles d'humains. »
« Va pour les drôles d'humains », pensa Henri qui alla se planter devant la mère, signée Anna Heusch.
C'était un portrait de femme rendu très étrange par des collages, des assemblages d'éléments disparates. Le visage en particulier mêlait à des éléments fragmentés du corps humain la représentation d'un masque tribal. Ce dernier avait un nez tombant qui s'inscrivait dans la ligne d'une crête centrale séparant le front en deux. Il n'y avait pas de cheveux, mais de petits motifs ovoïdes peints au niveau de ce que les anatomistes nomment la suture coronale. L'œil de gauche était celui bien incarné d'une femme. Tiré d'un magazine illustré en noir et blanc, il était clair, régulier, soigné et bordé d'un sourcil fin et courbe. L'œil de droite, en revanche, était taillé dans le masque. Il était plus schématisé et doté d'une pupille qui semblait pâtir d'un strabisme divergent. Juste en dessous de celui-ci et au-dessus de la pommette, l'artiste avait découpé une étroite trouée en forme de trapèze irrégulier qui donnait l'impression d'une cavité oculaire rudimentaire. Cette trouée ouvrait sur l'arrière-plan de l'œuvre qui se composait d'une succession verticale de bandes de couleurs aquarellées aux teintes orangées, rosées, grisées. Au bas de cette grosse tête hybride et asymétrique, il y avait un autre élément photographique, une bouche humaine fermée, proportionnellement trop petite par rapport à l'ensemble, dominant un minuscule menton rondelet. Cette partie était monochrome, mais jaune, de même que le buste couvert d'un modeste tricot. Ce buste avait des épaules menues, et la poitrine s'affaissait sur une nouvelle découpe qui ouvrait sur l'arrière-plan abstrait et multicolore. Là, l'artiste avait visiblement voulu signaler, par un renflement bombé au niveau du ventre, une grossesse. Les bras s'arrêtaient au biceps, avant le coude. Le tout était bordé par d'épaisses marges blanches. Pendant l'examen rituel, Mona entra en communion avec la détresse qui pesait sur cette drôle d'effigie désaccordée. Quelque chose la lestait de lassitude et d'ennui, notamment dans la petite bouche pincée et dans le jeu des couleurs. L'aquarellage délavé de l'arrière-plan détonnait avec la grisaille du visage. « Allez, Mona, dis-moi ce que tu vois », finit par demander Henri d'une voix douce et chaleureuse.
« Je vois surtout ce masque. Il pourrait être posé sur la tête. Sauf que l'œil de gauche et le menton sont des morceaux de journaux découpés et ils viennent plutôt le recouvrir. Qu'est-ce qui est dessus? Qu'est-ce qui est dessous? C'est impossible de vraiment le dire. On est un peu perdu, en fait. »
C'est un élément évidemment très important, ce masque. Et c'est sans doute un aspect historique dont je n'ai pas suffisamment parlé jusque-là. Anna Hösch est allemande. Née en 1889, elle fait partie de ces artistes qui, depuis le début du XXe siècle, éprouvent une vive fascination pour les cultures d'ailleurs, celles par exemple des pays d'Afrique ou d'Océanie. Anna Hösch affectionnait les musées ethnographiques où l'on présentait des objets. Mieux, elle découpait des images de certaines de ses pièces et les juxtaposait avec des images de corps féminins. C'est le cas ici. Elle mêle au portrait d'une femme enceinte, dont la grossesse apparaît en creux sous la poitrine, un masque d'Amérindien Kwakiutl. Du temps d'Anna Hösch, quelques curieux ont commencé à porter un regard neuf sur ces objets qui ont longtemps été méprisés. Le poète Guillaume Apollinaire, par exemple, et surtout le peintre Pablo Picasso, dont je te reparlerai bientôt, n'ont cessé de répéter combien ils estimaient ces fétiches, ces bijoux, ce mobilier qu'on désignait alors comme appartenant aux arts primitifs. Or, ce que voulait montrer Anna Hösch, Apollinaire ou Picasso, c'est que cette distinction entre sauvage et civilisé est stupide. Anna Hösch vivait à Berlin pendant la Première Guerre mondiale, et elle prit conscience du désastre causé par les progrès techniques, ce qui n'empêchera pas malheureusement le conflit de se reproduire 20 ans plus tard. La guerre de 14-18 ne serait pas la dernière.
Moi, Dadé, je sais que pendant cette guerre, il y eut beaucoup de soldats à la figure tellement détruite par des explosions qu'on les appelait les gueules cassées.
C'est vrai. Ce portrait, c'est un peu ça aussi. Une gueule cassée, parce que les différents morceaux sont collés et ressemblent à du bricolage. Mona aimait tellement son grand-père qu'elle ne remarquait plus qu'il était lui-même balafré et borgne. Mais là, elle fut forcée d'y songer. Elle ignorait les circonstances exactes de sa blessure. Le vieil homme était bien peu disert sur la question. Son dadé n'en était pas moins pour elle une gueule tout court, vaillante et sublime, malgré l'incise violacée qui la barrait. Anna Hösch a été révoltée par la guerre. C'est une horreur qui, dit-elle, l'a comme comprimée dans un corset, l'a asphyxiée et l'a rendue avide de liberté. En Allemagne, le choc du conflit a été épouvantable et on a vu énormément de blessés revenir avec le corps démembré. Le spectacle de ces survivants meurtris pour toujours frappait les consciences. Un spectacle à la fois horrible et, malheureusement, c'est le pire, légèrement absurde et comique.
Comique ? Est-ce qu'on peut vraiment rire devant des gens qui ont souffert ?
Ce n'est certainement pas très digne, Mona, tu as raison. Il n'empêche que l'art remue parfois ce qu'il y a de plus enfoui en chacun de nous, y compris des sentiments qui ne sont pas glorieux mais constituent la nature humaine. Anna Hösch était affiliée au mouvement Dada dont je t'ai brièvement parlé devant le BHV en évoquant les cabarets extravagants qu'ils organisaient. Dans ce mouvement, plusieurs artistes ont voulu montrer une société traumatisée par les affres de la guerre et une humanité défigurée. Mais ils le faisaient toujours avec un fond d'ironie insolente. C'était le cas d'un certain Raoul Haussmann, un homme avec qui Anna Hösch a vécu une liaison douloureuse parce qu'il la tyrannisait.
Vas-y, explique.
Comme tu le vois, cette œuvre s'appelle « La mère » et montre une femme enceinte. Or, Anna Hösch a avorté par deux fois dans sa jeunesse, en 1916 et en 1918. Il faut dire que Raoul Haussmann fut un compagnon souvent cruel. D'un côté, il voulait en finir avec les traditions familiales, l'invitait à être une femme libre, émancipée. De l'autre, il voulait vivre égoïstement et la posséder. Elle avait fini par le craindre tellement qu'elle ne peignait qu'en secret et s'arrêtait net dès qu'elle l'entendait monter l'escalier.
« Ça fait peur ce que tu racontes, Dadé. J'espère qu'elle est partie. »
« Elle est partie, oui, en 1922, et elle a vécu ensuite avec une femme. Quand elle signe cette mère, elle ne fréquente plus Raoula Haussmann depuis un bon moment. Mais ils ont continué à s'estimer l'un et l'autre, car leur intense émulation mutuelle leur a permis d'inventer une nouvelle technique artistique.
« Attends, Dadé, je sais ce que tu vas dire. Ils ont inventé le collage. »
« Presque, Mona. Si on parle de collage, comme tu dis, il faut remonter à Picasso, qui, dès 1912, avait collé un bout de toile cirée sur une toile peinte ovale qu'il avait ceinte d'une corde réelle. En revanche, Anna Hösch invente en 1918, avec Raoul Haussmann, ce qu'on appelle le photomontage. Mona répéta le mot avec précaution. Et elle confère à ce procédé une portée très politique. En découpant et en associant des images populaires issues de magazines, des images savantes ou des archives personnelles, elle ne se contente pas d'une innovation formelle. Elle cherche à faire vaciller nos points de repère habituels, à faire éclater notre façon de nous représenter les choses et leur unité supposée.
En tout cas, ça donne l'impression qu'être enceinte, c'est un grand malheur, Dadé. Dans l'image, il y a comme un poids sur les épaules.
Je comprends très bien ta lecture, Mona. L'œuvre d'Anna Hösch raconte tout cela, c'est certain, mais je ne pense pas qu'elle soit uniquement une défiguration et une décomposition. Elle est bien plus positive qu'elle n'en a l'air, car elle montre aussi une reconfiguration et une recomposition, une réinvention des standards de la beauté. Et c'est cela aussi le symbole de la maternité, la naissance de nouveaux possibles et d'identités inattendues.
Il faut que tu comprennes, Mona, qu'au début du XXe siècle, on croit encore que chacun doit demeurer dans son rôle, en particulier les femmes.
Cette œuvre d'Anna Hösch nous apprend justement que rien n'est si prédéterminé. Et tant pis pour les disproportions. Si nous étions tous identiques et également proportionnés, physiquement ou moralement, quelle tristesse ce serait. Anna Hösch nous le dit, il faut de la disproportion. Car c'est cela aussi être soi-même, dans sa singularité.
C'est ça la leçon ?
La leçon, c'est qu'il faut sans cesse, encore et toujours, composer son être.
Mais au fait, Dadé, qu'est-ce que j'ai comme disproportion, moi ? Des yeux trop gros, comme on dit à la récré ? Un tout petit menton, comme dit papa ?
Je dirais que tu as surtout le cœur trop grand, Mona.